derrière lui à le regarder écrire. Il complétait les notices de tante Dide, de l'oncle Macquart et du petit Charles. Inscrivait leur mort, mettait les dates. Puis, comme il ne bougeait toujours pas, ayant l'air d'ignorer qu'elle était là, à attendre les baisers et les rires des autres matins, elle marcha jusqu'à la fenêtre, en revint désœuvrée. « Alors, c'est sérieux, on travaille ?»« Sans doute. Tu vois que j'aurais dû, depuis le mois dernier, consigner ces morts. Et j'ai là un tas de besognes qui m'attendent. » Elle le regardait fixement, de l'air de continuelle interrogation dont elle fouillait ses yeux. « Bien, travaillons. Si tu as des recherches que je puisse faire, des notes à copier, donne-les-moi. » Et, dès ce jour, il affecta de se rejeter tout entier dans le travail. C'était, d'ailleurs, une de ses théories que l'absolu repos ne valait rien, qu'on ne devait jamais le prescrire, même au surmené. Un homme ne vit que par le milieu extérieur où il baigne, et les sensations qu'il en reçoit se transforment chez lui en mouvement, en pensée et en acte. De sorte que, s'il y a repos absolu, si l'on continue à recevoir les sensations sans les rendre, digérées et transformées, il se produit un engorgement, un malaise, une perte inévitable d'équilibre. Lui, toujours, avait expérimenté que le travail était le meilleur régulateur de son existence. Même les matins de santé mauvaise, il se mettait au travail. Il y retrouvait son aplomb. Jamais il ne se portait mieux que lorsqu'il accomplissait sa tâche, méthodiquement tracée à l'avance, tant de pages chaque matin, aux mêmes heures. Et il comparait cette tâche à un balancier qui le tenait debout, au milieu des misères quotidiennes, des faiblesses et des faux pas. Aussi accusait-il la paresse, l'oisiveté où il vivait depuis des semaines, d'être l'unique cause des palpitations dont il étouffait par moments. S'il voulait se guérir, il n'avait qu'à reprendre ses grands travaux. Ses théories, Pascal, pendant des heures, les développait, les expliquait à Clotilde, avec un enthousiasme fiévreux, exagéré. Il semblait ressaisi par cet amour de la science, qui, jusqu'à son coup de passion pour elle, avait seul dévoré sa vie. Il lui répétait qu'il ne pouvait laisser son œuvre inachevée, qu'il avait tant à faire encore s'il voulait élever un monument durable. Le souci des dossiers paraissait le reprendre. Il ouvrait de nouveau la grande armoire 20 fois par jour, les descendait de la planche du haut, continuait à les enrichir. Ses idées sur l'hérédité se transformaient déjà. Il aurait désiré tout revoir, tout refondre, tirer de l'histoire naturelle et sociale de sa famille une vaste synthèse, un résumé à large trait de l'humanité entière. Puis, à côté, il revenait à son traitement par les piqûres pour l'élargir. Une confuse vision de thérapeutique nouvelle, une théorie vague et lointaine, née en lui de sa conviction et de son expérience personnelle au sujet de la bonne influence dynamique du travail. Maintenant, chaque fois qu'il s'asseyait à sa table, il se lamentait. Jamais je n'aurais assez d'années devant moi. La vie est trop courte. On aurait cru qu'il ne pouvait plus perdre une heure. Et, un matin, brusquement, il leva la tête, il dit à sa compagne, qui recopiait un manuscrit, à son côté. Écoute bien, Clotilde. Si je mourais. Effarée, elle protesta. En voilà une idée. Si je mourais, écoute bien. Tu fermerais tout de suite les portes. Tu garderais les dossiers pour toi seul. Et lorsque tu aurais rassemblé mes autres manuscrits, tu les remettrais à Ramon. Entends-tu? Ce sont là mes dernières volontés. Mais elle lui coupait la parole, refusait de l'écouter. Non, non, tu dis des bêtises. Clotilde, jure-moi que tu garderas les dossiers et que tu remettras mes autres papiers à Ramon. Enfin, elle jura, de devenue sérieuse et les yeux en larmes. Il l'avait saisie entre ses bras, très ému lui aussi, la couvrant de caresses, comme si son cœur, tout d'un coup, se fût rouvert. Puis, il se calma, parla de ses craintes. Depuis qu'il s'efforçait de travailler, elle paraissait le reprendre. Il faisait le guet autour de l'armoire. Il prétendait avoir vu rôder Martine. Ne pouvait-on mettre en branle la dévotion aveugle de cette fille, la pousser à une mauvaise action en lui persuadant qu'elle sauvait son maître? Il avait tant souffert du soupçon. Il retombait, sous la menace de la solitude prochaine, à son tourment, à cette torture du savant menacé, persécuté par les siens, chez lui, dans sa chair même, dans l'œuvre de son cerveau. Un soir, qu'il revenait sur ce sujet avec Clotilde, il laissa échapper « Tu comprends, quand tu ne vas plus être là ?» Elle devint toute blanche, et voyant qu'il s'arrêtait, frissonnant, « Oh, maître, maître, tu y songes donc toujours, à cette abomination ? Je le vois bien dans tes yeux que tu me caches quelque chose, que tu as une pensée qui n'est plus à moi. Mais si je pars et si tu meurs, qui donc sera là pour défendre ton œuvre ?» Il crut qu'elle s'habituait à cette idée du départ. Il trouva la force de répondre gaiement. « Penses-tu donc que je me laisserai mourir sans te revoir ? Je t'écrirai, que diable ! Ce sera toi qui reviendras me fermer les yeux. » Maintenant, elle sanglotait, tombée sur une chaise. « Mon Dieu, est-ce possible ? Tu veux que demain nous ne soyons plus ensemble ? Nous qui ne nous quittons pas d'une minute ? Qui vivons au bras l'un de l'autre ? Et pourtant, si l'enfant était venu... Ah ! Tu me condamnes ! » interrompit-il violemment. « Si l'enfant était venu, jamais tu ne serais parti. Ne vois-tu donc pas que je suis trop vieux et que je me méprise ? Avec moi, tu resterais stérile. Tu aurais cette douleur de n'être pas toute la femme, la mère. Va-t'en donc, puisque je ne suis plus un homme. » Vainement, elle s'efforçait de le calmer. « Non, je n'ignore pas ce que tu penses. Nous l'avons dit 20 fois. Si l'enfant n'est pas au bout, l'amour n'est qu'une saleté inutile. Tu as jeté l'autre soir ce roman que tu lisais, parce que les héros, stupéfaits d'avoir fait un enfant, sans même s'être douté qu'ils pouvaient en faire un, ne savaient comment s'en débarrasser. Ah, moi, que je l'ai attendu, que je l'aurais aimé, un enfant de toi !» Ce jour-là,